C'est l'heure de votre rendez-vous Parole de vie, soyez les bienvenus. On dit que la nature fait bien les choses et de manière diversifiée. Prenez par exemple la reproduction ou les naissances. Il y a mille et une manières. Certains animaux naissent tout prêts à l'emploi, d'autres sont complètement dépendants de leur géniteur pendant une période plus ou moins longue, et d'autres encore s'amusent au jeu de la métamorphose, comme la chenille qui devient papillon, ce qui est bien sympathique, n'est-ce pas? Et pour faire un homme, comment ça se passe? Serge Lama a sa petite idée. Pas mature en un jour, et c'est aussi vrai de la vie spirituelle. Notre invité, Jacques Semelin, n'a pas fini de chercher. Chercheur, il en a même fait sa profession, mais voilà qu'il a perdu la vue. Reste à savoir maintenant si Dieu l'avait perdu de vue. Voici les métamorphoses de quelqu'un qui découvre une nouvelle manière d'être au monde. N'est-ce pas comme une nouvelle naissance? Jacques Semelin, au micro de François Sergi, suite d'un entretien en 6 épisodes.
Ça a vraiment été ma première posture à l'égard de Dieu, un Dieu que je voulais protecteur et guérisseur, qui me répondait simplement par son silence. C'est vrai que cette position, en fait, finissait par me faire souffrir. Je précise que j'ai jamais été à Lourdes. On peut y penser de temps en temps. Ça n'a pas été mon cas, mais je comprends les gens qui peuvent vouloir y aller, en fait. Et puis, je suis entré dans une seconde attitude qui a consisté finalement à me débarrasser de Dieu, au sens où je n'attendais plus rien de lui. Je me disais qu'il fallait simplement compter sur mes propres forces, sur mes propres ressources pour avancer. Et certainement, cette période a été celle de mon retrait à l'égard de la religion, tout en ayant de grands amis chrétiens de très longue date. Voilà, et puis bon, ça a encore évolué, au sens où, je dirais, c'est plutôt à partir du texte, une découverte de textes comme ceux de Paul.
Donc bien qu'ayant évacué Dieu quand même, malgré tout, vous reveniez au texte.
Oui, c'est plutôt à travers des occasions qui vous sont données dans la vie, toutes sortes de raisons pour lesquelles vous pouvez rencontrer le texte de l'Ancien Testament ou de l'Évangile. Et c'est vrai que je suis tombé en arrêt dans un texte de Paul qui parle de sa faiblesse comme d'une force.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, bon, précisément.
C'est vous qui le dites. Et puis aussi le texte de Job m'a beaucoup... Job me fascine. Je suis certainement pas à la hauteur de Job. Hein. Quand même, qu'est-ce qu'il a supporté? Tout ça a fait que je ne peux pas, évidemment, me désintéresser de ce texte, de ces textes. Et d'autant, alors là, on viendra au thème de la non-violence. Si on regarde aussi le texte, il y a quand même le sermon sur la montagne qui est d'une splendeur stupéfiante. 10 lignes. Enfin, il ne fait pas plus de 10 ou 15 lignes, ce texte. Et on en parle toujours. Donc, est-ce que ce texte vient d'un homme? Est-ce que ce texte vient d'un Dieu, de Dieu, du Christ, du Père? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un texte qui, même si vous ne voyez pas, vous inonde de sa lumière. C'est quand même un bijou absolument exceptionnel. Et on va dire, la question de Dieu continue à me tarauder.
Et nous, cette question de Dieu, est-ce qu'elle nous taraude encore? Ou est-ce que nous pensons en avoir fait le tour? Est-ce que nous n'avons plus aucun doute? Ou au contraire, pensons-nous avoir évacué une fois pour toutes ce Dieu dont on parle tant sans vraiment le connaître? On retrouve Jacques Semelin, toujours au micro de François Sergi.
Cette idée de la faiblesse qui est une force, vous en parlez ailleurs par rapport à votre handicap ou vous posez la question de savoir mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ça comme un plus plutôt que comme un moins?
Ah oui.
Et vous mentionnez aussi les effets secondaires positifs.
Alors, ça c'est vrai, mais j'ai mis beaucoup de temps.
C'est facile.
C'est facile à dire comme ça, à annoncer, mais il faut le vivre et il faut surtout l'intégrer psychiquement. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Bien entendu, je ne peux parler que par rapport à mon travail intellectuel. Mais effectivement, ne plus voir peut comporter certaines compensations en termes de facultés intellectuelles. Alors, bien entendu, la grande perte, c'est la lecture et c'est l'acquisition par la vision, puisqu'on estime aujourd'hui, je crois, que 75-80% de toutes nos acquisitions se font par les yeux, quand même, au départ. Hein. Et c'est en ce sens-là que perdre la vue est absolument angoissant. Mais en même temps, vous vous rendez compte, avec l'expérience, que ça vous conduit à développer votre mémoire. Ça vous conduit aussi à faire preuve de concentration intellectuelle quand vous écoutez une conférence, un professeur, bon. Et puis aussi, ça peut vous aider à avoir le sens de la synthèse, aller à l'essentiel. Toutes sortes, donc, de facultés qui sont utiles, en réalité, dans mon métier de chercheur et de professeur. Donc, voilà, j'ai pris conscience progressivement que la perte de la vue, si elle est tragique, n'est pas une tragédie absolue, puisqu'il y a aussi des possibilités de rebondir, y compris dans le métier que j'ai choisi. L'accepter comme une métamorphose. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours le même, mais vous devenez quelqu'un d'autre. Et c'est la manière dont vous allez accepter cette métamorphose qui va être l'enjeu principal de votre existence. Et c'est pas gagné d'avance, pas du tout. Parce que, en gros, vous avez une fonction physique qui fout le camp. Moi, c'est les yeux, mais ça peut être autre chose. Et la perception psychique que vous avez de vous-même ne suit pas nécessairement cette déficience physique croissante. Et tout le problème, ça va être de vivre cette transformation intérieure, y compris de vos propres schémas corporels, de vos propres sens, de telle manière que cette nouvelle manière d'être au monde soit en conformité avec la perte physique que vous avez vécue. C'est le combat d'une vie.
Ça s'appelle l'acceptation.
Ah oui, sûrement, ça s'appelle l'acceptation, ça s'appelle le fait de s'assumer, l'assomption.
L'assomption, comme Marie.
Oui, mais justement, je voulais vous en parler.
C'est quoi, ça veut dire c'est une espèce d'élévation?
Non, assomption, c'est le fait de s'assumer, d'assumer ce que vous êtes, en quelque sorte, ce que j'ai appelé ma petite mort.
S'assumer, mais pas seul non plus. Hein. Pas d'orgueil.
Et
là, il faut faire un hommage au lecteur, faire un hommage à votre épouse, à votre entourage,
voilà,
etc.
Voilà. Dans tout le livre, on rencontre des personnages, publics ou privés, qui à un moment ou à un autre ont été ou sont toujours sur ma route. Et les citer dans le livre, faire leur portrait, c'est une manière de leur rendre hommage. Toute cette chaîne de lecteurs qui a été pour moi un secours infini, mais surtout, bien entendu, et tout d'abord à la personne qui est devenue mon épouse. Je ne suis pas un cas unique, puisque j'ai eu aussi des témoignages à la suite de ce livre aussi. Il est vrai que Dans mon cas, on est très réticent à développer une relation avec une femme, à fonder une famille. J'explique pourquoi, en quelque sorte. Et que là encore, il s'agit de faire confiance, de se dépasser, je ne sais pas quels termes sont les plus justes, à celle qui vous a remarqué, qui porte attention à vous. Et ce processus-là, qui a été pour moi difficile aussi à raconter, est absolument central dans la construction d'une personne. C'est la manière dont on peut-être revivre, se reconstruire dans une faiblesse assumée. Et elle, de son côté, elle s'appelle Lydie, n'avait pas non plus le mode d'emploi pour faire avec un type qui était en train de perdre la vue. Elle a sûrement pas joué à l'infirmière. Je l'aurais pas accepté. De toute façon, je m'en serais séparé si c'était ça. Je le dis aussi, cette dimension, parce que par rapport
à
une personne...
Oui, vous êtes très discret d'ailleurs, mais on voit qu'il y a eu des ajustements, que ça n'a pas été toujours facile.
Ah non,
c'est de couple.
Bien sûr, bien sûr. C'est une construction conflictuelle et difficile, mais qui a toujours pu être surmontée par la parole, en quelque sorte. Et donc, le livre aussi, c'est une suite de petits rebondissements, comme chacun peut en vivre dans sa vie, à travers lesquels on franchit une nouvelle étape. Bon, ça fait partie du registre de l'intime, mais bon, j'ai essayé de trouver un juste milieu pour donner suffisamment au lecteur le sentiment qu'il peut partager avec moi ce qu'il peut vivre lui-même.
Aujourd'hui, devant ton saint regard, je veux me prosterner, me mettre à part. Trop souvent, Satan m'a blessé. J'ai été naïve, il m'a trompé. Et dans un monde sombre et flou, j'ai perdu pied. J'avais tant de rêves, j'ai bien failli oublier. Mais Jésus, tu m'as, par ton amour au conduit, tu as éclairé mes yeux meurtris. J'ai retrouvé mes rêves et mon assurance. Pourquoi tout serait noir en Dieu et l'espérance? Je promets à mon Dieu et à mon futur de me garder d'âme, d'esprit et de corps pur. Combien ont aboli le mariage par l'impureté? Pourquoi cracher sur la beauté? Jésus, pour toi et pour lui, j'attendrai. Tant de choses ont tué l'image de la virginité. Tant de gens crades, abusent, images d'obscénité. Trop de filles regrettent d'avoir cédé. Trop de souffrances, de honte, de péché. Mais Jésus, dans son amour, m'a racheté. Un amour sincère et vrai, c'est à quoi j'aspire. Trop de blessures restent et font souffrir. Pourquoi vouloir cracher sur ce cadeau divin? De s'aimer à jamais, ne forme qu'un.
Connaître l'amour, laisser l'amour guider nos jours. Permettra l'amour de durer pour toujours. Mais est-ce l'amour inaltérable? Mais est-ce l'amour véritable? Cet amour qui aime sans attendre un retour. Le vrai amour, ce n'est pas juste un beau discours. De belles paroles, de jolis mots que l'on dit. Mais aussi des actes qui l'entourent, qui l'appuient. Celui qui aime est patient, généreux. Il donne aux pauvres, aide les malheureux, il n'est pas envieux, prétentieux, orgueilleux, ne faisant jamais rien de honteux, de scandaleux. Il est toujours droit, respectueux, il n'a aucune rancune envers son prochain, n'a aucune amertume. Fait le bien naturellement, et si parfois il subit des propos insultants, il ne dit jamais rien, pardonne tout le temps, ne méditant, ne souhaitant point le mal. Il proclame la vérité de toute son âme. Il est censé doter de sagesse et de calme. Son comportement est sans cesse irréprochable. Il aime en tout temps, il est fidèle. Le véritable amour est éternel.
Et voilà, c'était du rap pour finir cette émission en beauté avec Lorenzo, le véritable amour. Sachant que l'amour n'est véritable que fragile et qu'il s'épanouit dans la confiance. Faire confiance, se dépasser, disait notre invité Jacques Semelin. Et pourquoi ne pas faire confiance aussi à Dieu? Alors on se quitte, au revoir et à bientôt dans Parole de vie, une émission signée Radio Réveil.
Vous pouvez obtenir le CD gratuit de la série d'émissions avec notre invité en écrivant à Parole de vie, boîte postale 310, 18007, Bourges Cedex, France, ou via le site www.parole.ch, courriel vie@parole.ch, vie@parole.ch.